Europe 1, le 22-22-30,
Julien Peers.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Retrouver nos amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à cause de la distanciation, le confinement, machin et tout. Donc non, là ça va faire du pire.
Les restrictions dans le rétroviseur, cap à l'ouest pour ce long week-end de l'Ascension. Le temps est mitigé, mais qu'importe, l'océan et ses embruns déconfinent les sourires. Il y a ceux qui sont partis prendre l'air et ceux qui sont restés pour Pfizer. À Paris, les jeunes se bousculaient cet après-midi pour se faire vacciner. Escalade dramatique au Proche-Orient, Israël masse ses blindés aux portes de Gaza, tandis que le Hamas lance désormais ses roquettes en direction des aéroports. Solitaire, surarmé, apte à la survie en milieu hostile, le profil très inquiétant de l'auteur présumé du double meurtre dans les Cévennes, toujours ce soir introuvable. Dans ce journal également, l'arrestation de deux Français soupçonnés d'avoir été à la tête d'un réseau pédopornographique en Espagne. La Russie va envoyer une actrice et un réalisateur dans la Station Spatiale Internationale pour tourner le premier film dans l'espace. Et puis le foot, demi-finale de Coupe de France. Les amateurs de Romilly affrontent en ce moment l'AS Monaco, Julien Froment.
Exactement, c'est la mi-temps et 2-1 pour l'AS Monaco face à Rumi qui pourtant avait ouvert la marque dans ce match, cette demi-finale de Coupe de France.
A tout de suite Julien, la météo elle va légèrement s'améliorer demain avec un temps un peu plus calme mais la journée sera encore loin d'être digne d'un mois de mai avec des averses fréquentes et des températures toujours fraîches, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en petite hausse, plus 0,14% à 6288 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com dans Top à Wall Street. L'interview écho dans 20 minutes. Elon Musk rétropédale sur le Bitcoin, cybermonnaie que le patron de Tesla juge trop polluante. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Lionel Arré, directeur associé du Boston Consulting Group et spécialiste des crypto-monnaies. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Anissa Haddadi nous le dira dans quelques minutes. Le soleil joue à cache-cache en ce week-end prolongé. Fraîcheur et averses qui n'ont toutefois pas rincé l'envie d'échapper aux grandes villes. Un bon bol d'air frais, certes moite, mais c'est toujours ça de prix pour les vacanciers du pont de l'Ascension qui sont nombreux à avoir posé leurs valises en bord de mer, notamment à Taron-Plage, près de Nantes, Charles Guyard.
Oui, et c'est arrivé de toute la France, hein, comme le confirme d'ailleurs ce responsable d'un club de voile très observateur.
J'ai regardé les plaques qu'il y avait sur le parking, ça vient d'un peu partout.
Sandra, Michael et leur petit Mathéo ont roulé depuis la Sarthe et en attendant de récupérer les clés du mobilhome qu'ils ont loué à Taron, la petite famille casse la croûte à l'arrière de la voiture.
Du coup, avec les restaurants qui sont fermés, on a la chance déjà de pouvoir manger dehors avec ce soleil-là.
Un soleil furtif, hein, cependant, car aujourd'hui, il fallait surtout jongler en traverse et éclaircie.
Ouais, on a de la chance parce qu'on a eu de la pluie sur la route.
En tout cas, pas de quoi décourager Baptiste et son papa qui ont déjà concocté leur programme.
Je vais jouer dehors, au ballon, faire du vélo et aussi la plage. Et
même si le temps est pas tout à fait au rendez-vous, mais ça fait du bien de couper. Ouais.
Eux, c'est la distance qui les sépare, qu'ils ont coupé en deux. Un couple qui vient de Brest, l'autre de La Rochelle, et au milieu, la région de Pornic, pour des retrouvailles très attendues.
Voilà, retrouver nos amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, à cause de la distanciation, le confinement, machin et tout. Donc non, là, ça va faire du pire.
On reprend un peu goût à la vie, quoi. Si tout le monde fait attention, je pense que ça peut durer, quoi.
Pourvu que ça dure, en effet, en attendant, jusqu'à dimanche, la grande préoccupation ici est donc de composer avec une météo un peu capricieuse.
Charles Guyard, correspondant dans l'Ouest pour Europe 1. Ce long week-end de l'Ascension rime aussi avec vaccination. Un peu plus de 19 millions de Français ont désormais reçu au moins une dose. L'objectif des 20 millions fixé par le gouvernement devrait être atteint dans les tout prochains jours, car tout le monde n'est pas parti en vacances. Loin de là, à Paris, le vaccinodrome de la Porte de Versailles était loin d'être désert. Cet après-midi, il y avait notamment beaucoup de jeunes, Romain Hougue.
Oui, et même des très jeunes dans la file d'attente, moins de 20 ans pour certains. C'est le cas de Simon, 19 ans, tout juste vacciné. Il est sorti du centre tout sourire tout à l'heure et pour cause, il a dès hier soir réussi à réserver son créneau en ligne.
Je pense que c'est important de le faire pour tout le monde, pour moi aussi, pour ma famille, pour mes proches. Et puis comme ça, cet été, j'ai prévu de partir aussi avec mes amis. Donc ça fait plaisir.
Partir cet été en montrant patte blanche, voilà la principale motivation de bon nombre d'entre eux, mais pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous. Alors Romain, 20 ans, prend son mal en patience.
J'ai essayé de prendre rendez-vous, il n'y avait aucun centre disponible. Là on m'a dit oui, apparemment il y aurait des doses disponibles en fin de journée, donc bon...
je tente le tout pour le tout. Voilà, c'est plus vite on sera vacciné, mieux, plus vite on sera sorti de l'affaire. Voilà pourquoi je suis là.
Lisa aussi patiente devant le centre en espérant bénéficier des doses restantes en fin de journée. Pour elle, c'est tout simplement un acte citoyen.
Pour moi, c'est la moindre des choses d'aller se faire vacciner et qu'on s'en sorte un peu, parce qu'au bout d'un an et demi, on en a vraiment très marre, même en tant qu'étudiant. Il y a un moment, faut faire le geste et voilà. Et si nous, on le fait pas, qui va le faire ?
Voilà, il n'y a donc pas de doute, les jeunes sont bel et bien au rendez-vous de la vaccination, ici porte de Versailles.
Reportage à Paris signé Romain Houg. Vaccination qui progresse, épidémie qui régresse, c'est la tendance forte du moment. On compte désormais environ 20 000 cas par jour. Quant au nombre de malades hospitalisés, il est repassé sous la barre des 24 000 pour la première fois depuis la mi-mars. Rechute en revanche en Guyane où le variant brésilien est désormais majoritaire. Reconfinement à partir de demain et au moins jusqu'au 30 mai. Le Royaume-Uni pensait en avoir bientôt fini avec le Covid, mais c'était sans compter le variant indien. Il fait une poussée en Angleterre, notamment dans la région de Manchester. Boris Johnson a exprimé aujourd'hui son inquiétude, même si pour l'heure, le Premier ministre britannique exclut un report des prochaines étapes du déconfinement.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Aucun répit entre Israël et le Hamas à l'approche d'une quatrième nuit de bombardement. Près d'une centaine de morts au total, la plupart dans la bande de Gaza. Après avoir visé l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, où les vols à l'arrivée sont déroutés, le Hamas a ciblé celui d'Eilat dans le sud d'Israël. La menace vient aussi du nord. Trois roquettes ont ce soir été tirées depuis le Liban. Quant à l'armée israélienne, elle poursuit ses bombardements. Une guerre dans les airs et peut-être aussi bientôt au sol, Jean-Sébastien Soldaini.
Et Gaza semble encore plus sous pression. Après les bombardements, Israël déploie désormais des chars et des blindés le long de la frontière. Le porte-parole de l'armée affirme que parmi les scénarios à l'étude, il y a celui de l'invasion terrestre de l'enclave palestinienne. Pas de quoi rassurer Assia, une habitante de la bande de Gaza qui vit depuis trois jours au rythme des bombardements.
Personne ne rentre, ne sort de la maison. On peut marcher, mais pas loin, et c'est risqué. Alors on est dans la maison, en train d'attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va se passer? Des fois, j'ai l'espoir que ça va se calmer. Ils ne veulent pas s'arrêter, ils veulent continuer les bombardements, ils veulent continuer la guerre sur Gaza. On va vers la mort.
La région est comme plongée dans un double conflit. En plus des affrontements avec le Hamas, Israël est secoué par des émeutes intracommunautaires. Les villes mixtes, là où cohabitent juifs et arabes israéliens, connaissent des scènes d'affrontements. Il y a même eu le lynchage d'un arabe diffusé en direct à la télévision. C'était tout près de Tel Aviv. Si bien que le ministre de la Défense, Benny Gantz, y envoie des renforts. Il y a là la crainte de voir une guerre civile s'ajouter à un conflit armé qui vient brutalement de se raviver.
Jean-Sébastien Soldaini. En France, la préfecture de police de Paris a interdit ce soir les rassemblements de soutien aux Palestiniens prévus samedi dans la capitale. C'était une demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cela fait maintenant près de 60 heures qu'il s'est évanoui dans la forêt Cévenole. Toujours aucune trace ce soir de l'auteur présumé du double homicide commis mardi dans une scierie. Le village des Plantiers dans le Gard est plus que jamais sous cloche, cerné par 350 gendarmes qui poursuivent les recherches. Stéphane Frangy, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Le procureur de Nîmes en a dit ce soir un peu plus sur le profil du fugitif.
Oui, le profil d'un solitaire passionné d'armes et notamment de tirs de précision. Lui qui rêvait d'être sniper, il possédait chez lui par exemple des sacs de sable comme ceux des militaires qui sont amenés à installer des camps de fortune à l'épreuve des balles. Eh bien, il n'est pas exclu qu'il se soit ainsi aménagé une base retranchée quelque part dans les bois. Le procureur de Nîmes, Éric Morel, est convaincu de faire face à un homme parfaitement entraîné à ce qui est en train de se passer.
C'est un homme apte à la survie en milieu hostile. C'est-à-dire que c'est un homme qui a l'habitude de partir en montagne, c'est un chasseur, donc apte à, effectivement à vivre et à survivre dans un milieu hostile, mais en même temps c'est pas un adepte, en tout cas en l'état des investigations, de l'idéologie survivaliste, pas plus qu'un paramilitaire comme c'était évoqué par l'un d'entre vous.
Voilà, mais son profil de solitaire aide en quelque sorte les recherches puisqu'il est présenté comme une personne sans le moindre ami, qui ne passe ni ne reçoit que finalement très peu d'appels téléphoniques. Difficile d'imaginer ainsi qu'un complice ait pu l'extraire de la zone de recherche de 15 km² qui est actuellement sondée.
Merci Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Cévennes. Fin de cavale pour deux Français soupçonnés d'avoir été à la tête d'un réseau pédopornographique en Espagne. Ils étaient en fuite depuis 3 ans sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Ils ont finalement été interpellés hier dans les Pyrénées-Orientales, Marion Dubreuil.
Oui, le couple de pédocriminels résidait en toute discrétion à Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales. C'est grâce à des écoutes téléphoniques que les policiers ont retrouvé leurs traces. Le premier a été interpellé à Perpignan, le deuxième à leur domicile, où la police a saisi 20 000 euros en liquide, des faux papiers ainsi qu'un ordinateur et plusieurs clés USB. Ces deux producteurs de pornographie gay s'étaient reconvertis dans la pédopornographie au début des années 2000. Ils avaient profité de la structure légale de leur société pour monter un véritable réseau criminel. Installés en Catalogne, ils avaient des antennes à travers toute l'Espagne, mais aussi au Maroc, en Roumanie, en Thaïlande. Ils alimentaient 24 domaines sur Internet pour fournir 550 utilisateurs en contenu inédit. Un réseau démantelé en 2016 par l'Espagne. La police avait alors saisi 1600 DVD et identifié une centaine de victimes. Des mineurs marocains, pour la plupart, payaient 10 ou 20 euros contre des actes sexuels filmés. Le couple de Français avait profité d'une libération sous contrôle judiciaire avant le procès pour prendre la fuite en 2017. Cette fois-ci, ils n'échapperont pas à la justice. Sous le coup d'un mandat d'arrêt des autorités espagnoles, ils pourraient être remis à l'Espagne dans les jours ou semaines à venir.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Bonne nouvelle pour l'industrie française et en l'occurrence Alstom. L'Ukraine vient de commander 130 locomotives électriques pour un montant de 880 millions d'euros, soit 7 années de travail pour l'usine de Belfort, se réjouit le maire de la ville. C'est une fusion qui ne dit pas son nom. Après 10 jours de psychodrame entre Les Républicains et La République En Marche, Sophie Cluzel annonce ce soir qu'il n'y aura pas de liste LREM pour les régionales en PACA. La secrétaire d'État apporte son soutien au président sortant, le candidat LR, Renaud Muselier, dont la liste comporte des membres de la majorité. On savait qu'Anne Hidalgo ne portait pas les voitures dans son cœur. Nouvelle confirmation ce soir. La mairie de Paris veut faire du cœur historique de la capitale une zone quasi piétonne et ce, dès l'année prochaine. Réduction drastique du trafic automobile. Il ne sera plus possible de traverser Paris en passant par les 4 premiers arrondissements ainsi qu'une partie de la rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain. Une consultation a été lancée qui doit aboutir en octobre au bouclage du projet. Allez, maintenant prenons un peu de hauteur à 400 km d'altitude, très exactement, là où se trouve la Station Spatiale Internationale, ainsi que Thomas Pesquet. L'ISS qui va se transformer en octobre en studio de cinéma, ce n'est pas une blague. La Russie a annoncé aujourd'hui qu'elle allait y tourner le tout premier film dans l'espace, Angèle Châtelier.
Oui, bientôt peut-être il n'y aura plus besoin de se contenter d'un fond vert et d'effets spéciaux monstrueux pour reproduire l'espace, comme c'était le cas dans Gravity par exemple.
Je vois rien, j'ai rien.
Non.
L'agence spatiale russe Roscosmos souhaite envoyer dans la Station Spatiale Internationale dès octobre prochain une actrice Yulia Peresild et un réalisateur Klim Shipenko pour ce qu'ils décrivent comme étant un projet scientifique et éducatif à grande échelle et ce qui serait le premier film à être véritablement tourné dans l'espace. Alors évidemment, ni elle ni lui ne sont des astronautes professionnels. Ils devraient donc commencer à se former aux vols spatiaux dans quelques semaines selon l'agence. Mais on connaît la guerre qui se joue entre la Russie et les États-Unis depuis des années, dans une course pour être toujours le premier dans les expérimentations spatiales. Il semblerait que ça continue puisqu'il y a une dizaine de jours, la NASA et Elon Musk avaient fait part d'un projet similaire, envoyé Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman à bord de l'ISS, là aussi, pour tourner une scène de son prochain film. Départ prévu en octobre 2021 encore, reste à savoir qui arrivera le premier.
Angèle Châtelier, eux aussi mériteraient un film vu leur épopée. Les footballeurs amateurs de Rumilly-Vallières sont en train de jouer le match le plus important de leur histoire. Demi-finale de Coupe de France face à l'AS Monaco. On prend tout de suite la direction du Parc des Sports d'Annecy où l'on retrouve Julien Froment. Julien, est-ce que les Hauts-Savoyards arrivent à inquiéter l'ogre monégasque ?
Alors écoutez, c'est la mi-temps, ils ont cru pouvoir inquiéter l'ogre monégasque puisque Rumilly a mené 1-0 à la 20e minute de jeu, une magnifique frappe d'Alexis Peugeot dans la lucarne du gardien monégasque, des monégasques justement un petit peu trop faciles sur le terrain qui ont commis trop d'erreurs et puis eh bien justement c'est sur une erreur de Rumilly que Monaco est revenu dans la partie, but contre son camp du défenseur Arthur Boson et ensuite eh bien, Monaco a déroulé avec un deuxième but signé Tchouaméni à la 32e, donc voilà Monaco qui mène 2-1 qui pour le moment est bien parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, même si Rumilly-Vallières fait vraiment un match très intéressant pour une équipe de National 2 qui n'a surtout quasiment pas joué de la saison. saison puisque les championnats amateurs sont arrêtés.
Julien Froment en direct d'Annecy pour Europe 1. Prochain point sur ce match dans quelques minutes à la fin de cette édition. Et puis toujours en foot, notez que la finale de la Ligue des Champions n'aura pas lieu à Istanbul comme c'était prévu initialement. La ville turque a été écartée par l'UEFA en raison de la situation sanitaire sur place. C'est à Porto que Manchester City et Chelsea s'affronteront le 29 mai avec du public dans les tribunes. La météo, Anissa Haddadi, on en parlait en début de journal, elle est humide et ça va continuer demain matin.
Oui, alors ça sera un petit peu plus calme que la journée qu'on a eue aujourd'hui, Julien, mais demain matin, effectivement, des Pyrénées à l'Alsace, en passant par le Massif central, la journée va commencer sous la pluie. Sur les Pyrénées et les Alpes d'ailleurs, nous avons toujours des flocons à partir de 1400 mètres d'altitude. En Normandie, en région parisienne et sur les Hauts-de-France, quelques averses encore demain matin. Et puis partout ailleurs, nous avons un soleil qui se montre timidement en début de journée, mais qui sera quand même bien là. Au fil des heures, les pluies vont se calmer. Sur la façade atlantique, les côtes de la Manche et le pourtour méditerranéen, là nous avons un temps sec avec de belles éclaircies. Ailleurs, et en particulier sur le Grand Est, nous avons toujours une atmosphère assez humide avec quelques petites averses et des orages qui éclatent dans l'après-midi dans le Grand Est. Alors côté température, toujours de la fraîcheur avec 4 à 13 degrés demain matin. Nous aurons 4 à 8 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 13 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis au meilleur de la journée, beaucoup de fraîcheur encore à cause du vent qui souffle sur une grande partie du pays. 13 degrés à Rodez demain après-midi, 14 à Brest, 15 pour Paris et Cherbourg, 16 degrés à Clermont-Ferrand et Biarritz, 17 pour Strasbourg, 19 à Nice et 22 degrés à Marseille pour la maximale.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho. Elon Musk rétropédale sur le Bitcoin, cybermonnaie que le patron de Tesla juge trop polluante. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Lionel Arré, c'est le directeur associé du Boston Consulting Group et surtout spécialiste des crypto-monnaies. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir mon cher Didier.
Bonsoir Julien.
Après un début de semaine en forte baisse, Wall Street a tenté un rebond ce jeudi.
Ça remonte fébrilement, on va dire. Plus 1,29% quand même sur le Dow Jones, 34 021 points. Le Nasdaq, c'est plus hésitant, plus 0,7%, 13 125 points. Les mauvais indicateurs d'inflation qui ont fait plonger les indices boursiers ne sont pas oubliés pour autant, ce qui explique cette fébrilité du marché. Le sursaut n'est pas vraiment homogène. Il y a quand même des rebonds comme Apple, plus 1,8% à 125 dollars, Microsoft plus 1,7%, IBM prend 2%, Google plus 1,2%, mais certains titres ne suivent pas, ne rebondissent pas, comme AMD moins 2%, Nvidia moins 0,7% et Tesla perd encore 3%, 571,80 $. Son patron, vous en parliez tout à l'heure, son patron Elon Musk donc a dérouté ses supporters en déclarant refuser désormais les paiements en Bitcoin. On en reparlera dans l'interview écho juste après. Elon Musk qui trouve le Bitcoin désormais trop polluant et énergivore. Du coup, le Bitcoin a chuté de façon spectaculaire de plus de 12% pour retomber sous les 50 000 $. On est à 48 800 $ ce soir, une forte baisse du Bitcoin. Le pétrole aussi accuse un petit peu le coup, à 67 $ le Brent. Il était bien monté ces dernières semaines. Il y a des prises de bénéfices sur le brut. L'euro est plus calme et ferme à 1,2080 face au dollar.
La Bourse de Paris, qui perdait près de 2% en matinée, a réussi, comme hier, à terminer dans le vert.
Oui, finalement, c'est une hausse de 0,14%, 6288 points. Et pourtant, oui, le CAC était en forte baisse en matinée, sous les 6200 points. Dans un marché calme, il est vrai, en raison de l'ascension, donc ça favorise aussi les écarts de cours assez spectaculaires. Après, le secteur bancaire qui s'est distingué récemment, c'est celui du luxe, en fait, qui a permis au marché de remonter dans l'après-midi. On a Dior qui grimpe de 2,5%, LVMH plus 1% à 616 €, Hermès plus 1,2%, Kering plus 0,4%, avec des ventes toujours très soutenues dans le secteur en Asie. Et puis quelques valeurs industrielles remontent aussi comme Nexans ou STMicro qui regagnent 1,5% ce soir.
Exception du jour, le secteur pétrolier qui a perdu du terrain dans le sillage des cours du baril.
Assez logiquement, oui, il y a cette pause du Brent sur les $67, des prises de bénéfices sur le brut après un très beau parcours sur les cours du brut. Alors évidemment, ça baisse assez fortement sur tout le secteur. Technip, -5%, CGG, -5%, Total repère 1,2%, 38,81 €, et puis Vallourec, -0,7% ce soir à 30,40 €. Les autres places financières sont assez fermes, +0,3% le DAX à Francfort, Milan +0,1%, de petits écarts quand même, Bruxelles +0,3%, et donc le CAC 40 gagne 0,14%, 6288 points.
Merci beaucoup Didier Hamo de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Lionel Arré.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group, spécialiste des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que nous avons voulu vous appeler ce soir. Parce qu'aujourd'hui, Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de SpaceX, qui avait encensé le Bitcoin, cette monnaie virtuelle, il y a de cela maintenant quelques mois, a dit aujourd'hui, nous, on ne veut plus qu'il soit possible d'acheter des Tesla avec du Bitcoin parce que le Bitcoin pollue trop. Alors, quand on se dit crypto-monnaie, tout ça en ligne, pourquoi ça pollue le Bitcoin, Lionel Arré?
Alors, le Bitcoin, comme beaucoup de gens le savent, c'est une monnaie décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'assure que les opérations sont licites et que tout se passe bien. Donc, il a fallu inventer des procédés qui permettent de rendre tout ça extrêmement sûr. Et un de ces procédés consiste à faire travailler les gens qui enregistrent les transactions sur des problèmes informatiques très compliqués, ce qu'on appelle le minage. Mmh. Or, qui dit problème informatique très compliqué, dit puissance de calcul très importante. Et en fait, plus il y a de puissance de calcul qui est mise à l'œuvre pour résoudre ce problème, plus on augmente la complexité de ce problème. C'est un des points très importants de la façon dont le Bitcoin fonctionne.
Donc, ce qui est certain, c'est que ça utilise beaucoup d'électricité. Et en plus, pas toujours de l'électricité verte, parce que je crois qu'une bonne partie de ce minage, comme vous venez de nous l'expliquer, Lionel Arré, il est fait en Chine. Et en Chine, on utilise encore beaucoup de centrales à charbon.
Oui, alors je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ça utilise beaucoup d'électricité. Juste pour donner une ou deux idées, quand vous faites une opération en Bitcoin, c'est à peu près la même chose que faire tourner 5000 fours à micro-ondes pendant les 10 minutes que prend l'enregistrement de l'opération. Pour donner un autre exemple, c'est moi ce qui m'avait beaucoup frappé quand Elon Musk a annoncé qu'il acceptait ces transactions, c'est équivalent, payer une voiture en Bitcoin, c'est équivalent à faire rouler cette Tesla sur 5000 km, juste le fait de faire ce paiement. Donc ça consomme massivement de l'électricité. Alors effectivement, ensuite, les tenants du Bitcoin vous diront que c'est de l'électricité verte ou de l'électricité qui, de toute manière, ne sera pas utilisée à autre chose. Bon, dans tous les cas, je pense que l'électricité, on en a besoin. Il y a beaucoup d'usages dans lesquels on saura utiliser l'électricité verte. Et puis par ailleurs, oui, on peut douter du fait qu'un certain nombre d'acteurs de cette chaîne, les fameux mineurs, qui se trouvent en Mongolie ou en Chine, soient aussi sensibles aux critères écologiques que nous pouvons l'être. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on en arrive souvent à dire, et ça fait l'objet de pas mal de débats, mais que l'ensemble de l'économie Bitcoin, ça représente à peu près la consommation de CO2 d'un petit pays comme l'Argentine ou le Danemark.
Oui, donc c'est loin d'être mineur. Malgré tout, ce qui est assez étonnant dans la déclaration d'aujourd'hui d'Elon Musk, c'est qu'il connaît, lui, très bien ces technologies de minage, il sait très bien comment ça fonctionne, il sait à quel point ça utilise de l'électricité. Comment vous interprétez son revirement du jour?
Alors, je pense qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur l'interprétation des paroles d'Elon Musk, et ça n'est pas que sur le Bitcoin. Je dois dire que moi, ce que je trouve totalement sensé, ce sont ces déclarations d'aujourd'hui. Ce que je n'avais pas compris, c'était ces déclarations antérieures, bon, sachant qu'elles se sont accompagnées en plus d'un mouvement dans lequel, au titre de Tesla, il avait lui-même investi dans le Bitcoin, ce qui était quand même un peu particulier. Donc non, je ne sais pas. Je peux difficilement imaginer qu'il n'était pas au courant. Est-ce qu'il en a pris plus conscience ou est-ce qu'un certain nombre de ses clients le lui ont fait remarquer, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que la bonne position, c'est celle d'aujourd'hui. Mmh.
Là, quand vous nous dites la plupart des gens qui enregistrent les opérations se trouvent en Mongolie ou se trouvent dans ce genre de pays, ce qui est étonnant avec le Bitcoin et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que personne ne sait comment ça a été créé. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'homme ou la femme ou le groupe d'hommes ou de femmes qui a créé le Bitcoin.
Oui, on ne connaît pas le fondateur, qui est censé être japonais, mais la plupart des gens doutent fortement qu'il soit japonais. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est effectivement un programme qui permet de faire tourner le Bitcoin. Je pense que quand ça a été conçu, d'ailleurs, il n'imaginait pas à quel point ça se développerait et à quel point, justement, on se retrouverait dans cette situation où il y a des centaines de milliers d'ordinateurs qui travaillent en continu pour pouvoir intégrer les opérations Bitcoin.
La sortie du jour d'Elon Musk a fait baisser assez fortement les cours du Bitcoin d'une vingtaine de pourcents au moment où l'annonce a été faite. Alors après, c'est remonté. On est aujourd'hui aux alentours de 50 000 dollars le Bitcoin. C'est énorme. Hein, la progression a été gigantesque ces derniers mois. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des crypto-monnaies, Lionel Array. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, hein, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour le Bitcoin dans les années à venir ? Ça va être une vraie monnaie d'après vous ?
Alors, d'abord, la valeur du Bitcoin, elle est essentiellement fixée par l'offre et la demande, hein, puisque en soi, il n'y a pas de fonction autre sur le Bitcoin. C'est pas une action d'une entreprise, c'est pas quelque chose qui produit de la valeur en tant que telle. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande. Bon, comme beaucoup de gens le savent aussi, il y a une limite sur le nombre de Bitcoins qui existent et qui ne sont jamais produits. Donc, la rencontre de cette forte demande et d'une offre qui est limitée, ça crée cette augmentation de la valeur. On peut imaginer que ça continue parce qu'encore une fois, les volumes qui sont demandés sont très importants. Moi, je pense qu'une des difficultés, c'est quand même que ça reste très volatile puisque justement, ça ne repose que sur la confiance. Un des sujets qui pourrait casser cette confiance, c'est celui dont nous discutons ce soir, c'est le problème de la consommation d'électricité. Parce que aujourd'hui, les grands investisseurs sur le Bitcoin, ce ne sont plus, comme ça a été au début, des fans ou des acteurs qui étaient présents depuis très longtemps et qui donc avaient des grosses positions en Bitcoin. Les acteurs aujourd'hui qui font beaucoup des transactions sont des investisseurs institutionnels reconnus. Je pense que eux aussi seront sensibles à la.
Ah, mais vous pensez que d'une certaine manière, l'annonce du jour d'Elon Musk va faire dire à d'autres, parce que vous le dites, hein, aujourd'hui les gros actionnaires, c'est notamment des grandes banques américaines, vont se dire « Oula, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas très classe en ce moment dans nos investissements d'avoir quelque chose qui pollue autant. »
Si Elon Musk trouve maintenant que ça n'est pas une bonne chose pour la planète, j'ai du mal à voir que des grandes banques américaines puissent avoir longtemps un avis.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Lionel Array, directeur associé au Boston Consulting Group. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des crypto-monnaies. Nous, on se donne rendez-vous demain, 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil. On vous retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Vous intéresserez à un produit parfois odorant, mais toujours délicieux, le fromage. Vous en parlerez avec l'un des plus grands fromagers de France, Pascal Beyver. 22h28 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Israël, Palestine, le grand vertige, titre Libération. Bombardement de l'armée israélienne, tir de roquettes du Hamas, scène de lynchage. L'escalade meurtrière se poursuit tandis que s'installe la crainte d'une guerre civile, écrit Libé. Cette crainte est nourrie par les violences qui surviennent depuis plusieurs jours entre juifs et arabes israéliens, lesquels représentent 20% de la population du pays. Elles ajoutent un deuxième front à la bataille militaire menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le danger est cette fois intérieur, analyse Laurent Baudin dans l'Alsace. Un tout autre sujet à la une des Échos. L'Europe table sur une reprise plus forte, titre le quotidien économique. La Commission a en effet revu à la hausse ses prévisions de croissance, plus 4,1% en 2021 pour la zone euro. C'est l'effet de la vaccination et de la levée des restrictions. On termine avec le Figaro. L'unité des macronistes minée par les divisions, titre le quotidien qui revient sur cette semaine chaotique pour la majorité présidentielle, avec pour point d'orgue le refus mardi soir du Modem de voter pour le pass sanitaire. Il y a eu aussi l'épisode de cette affiche de campagne pour les départementales où l'on voit une candidate voilée, autant de couacs et de divisions qui, selon le Figaro, ont poussé Emmanuel Macron à recadrer ses ministres. Son message en substance, moins d'état d'âme, plus de discipline collective. Dans un instant, la libre antenne, mais avant, retournons au Parc des Sports d'Annecy pour le foot. Deuxième et dernière demi-finale de la Coupe de France entre Rumi Ivaillère et l'AS Monaco. Et pour l'heure, ce sont les Monégasques qui rejoignent le PSG en finale, Julien Froment.
Effectivement, la 59e minute de jeu est désormais 3 buts à 1 pour Monaco face à Rumini Vaier. C'est Wissam Ben Yedder là, qui vient d'inscrire le troisième but sur une erreur manifeste hein, de la défense du club de National 2. Fabregas qui récupère le ballon, qui sert Ben Yedder et le petit ballon piqué pour aller tromper le gardien Dan Delaunay. Rumilly qui craque aussi physiquement hein, puisque cette équipe eh bien, amateur ne joue pas beaucoup, n'a pas beaucoup joué ces derniers mois, si ce n'est les matchs de Coupe de France face à une équipe de Monaco, une mécanique bien huilée, une équipe qui vise toujours le podium de la Ligue 1 et qui a instauré ces derniers jours une bulle performance pour justement être optimisé au maximum pour aller chercher eh bien, les objectifs de cette fin de saison. Pour le moment, c'est le cas pour l'AS Monaco puisque Monaco mène donc 3 buts à 1 face à Rumi Vaillère et est bien parti pour aller affronter en effet le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France la semaine prochaine et ça sera à suivre bien évidemment sur Europe 1.
Merci beaucoup Julien Froment en direct d'Annecy pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute maintenant.
Exactement, et nous on se retrouve dans une demi-heure pour votre flash.
À tout de suite.
À tout de suite.